on va voir que cette façon de se rééquilibrer va avoir des conséquences importantes et va venir endommager les quatre piliers principaux de l'apprentissage. Les quatre piliers principaux, c'est-à-dire la concentration, la curiosité, le langage et le fonctionnement intellectuel. Les quatre vont être touchés par ce mode de fonctionnement. Et la curiosité, je commencerai donc par la concentration d'abord. Hein, parce que ça, c'est assez facile dans une classe à repérer. D'ailleurs, vous ne m'avez pas attendu aujourd'hui pour repérer ça. On voit bien cette corrélation entre ceux qui sont en difficulté dans les apprentissages et leur façon d'être dans leur corps au moment où ils sont sollicités pour apprendre. Le premier signal de l'empêchement de penser, il est là, il est facile à repérer pour un enseignant. Et on voit bien cette concentration qui n'arrive pas, et par le relais, et qui va être transformée, la concentration, en un relais très vite passé au corps. Alors, c'est pour ça que... Je parlais tout à l'heure de cette observation des adolescents, quand ils sont autour de la table, ensemble, il y a une sorte, en plus, comme tous, ils ont des problèmes avec l'apprentissage, eh bien, ça diffuse, c'est contagieux, comme la grippe un peu, mais là, ça y va. Alors, j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai soif, je veux aller aux toilettes, j'ai une crampe, j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête, le silence m'empêche de travailler. Les autres m'embêtent, les autres me regardent mal, il dit des trucs sur les mères, je veux garder mon anorak, je veux garder mon MP3. On voit bien qu'ici, vous savez, là, l'instabilité et l'endormissement, pour moi, ils ont le même rôle, tous les deux. Il ne faut pas se laisser tromper par ça, c'est d'échapper à l'inquiétude que provoquent les contraintes de l'apprentissage. C'est le deux façons de se soustraire à ces contraintes. Le déclenchement de sensations corporelles qui accompagnent l'entrée dans la démarche intellectuelle signale en premier ces élèves qui, finalement, n'ont pas cette dimension interne suffisante, pas assez riche, pas assez sécurisée pour jouer ce rôle de médiateur, ce rôle constructif qui devrait favoriser l'apprentissage. Ça, c'est le premier point, donc vous voyez, ce relais trop vite passé au corps. Le deuxième point, c'est une curiosité particulière. Là aussi, ça va... Celui qui passe pas, en gros, par la boucle réflexive, il va développer une curiosité particulière. Alors, on voit bien que ça va les amener à renforcer et à réactiver ce que j'appelle la curiosité primaire pour satisfaire leurs besoins de savoir. Et ça, c'est assez. Ça aussi, c'est un grand classique chez ceux qui sont en difficulté. Parce que là, ça va leur coûter cher en termes d'apprentissage, c'est-à-dire que ça les empêche de se dégager de préoccupations personnelles pour aller vers des choses plus générales. Et puis, on voit bien qu'accepter, avec ce mode de fonctionnement, le rôle, s'intéresser au rôle de la règle et de la loi, ça ne va pas avec cette curiosité-là. Les outils privilégiés utilisés par ce désir de savoir qui décolle jamais vers la sublimation. Vous voyez, c'est un désir de savoir qui va toujours être mis en route ou activé par les ressorts les plus infantiles de la curiosité que sont le sadisme, le voyeurisme et la mégalomanie. Ça, alors là, vraiment, avec les adolescents qui sont en échec depuis longtemps à l'école, on voit bien comment ils ont réactivé. Alors là, si on leur parle de l'argent des footballeurs, de la Star Academy, de feuilletons violents, tout ça, ça les intéresse beaucoup. Bien entendu, ça répond à ces racines de la curiosité primaire. Jeux vidéo, feuilletons violents, films porno. Oui, tout ça, ça va bien. Mais règles du participe passé, non. C'est... un théorème de mathématiques, non, ça ne va pas avec cette curiosité. Pour intéresser, les sujets doivent permettre de revenir très vite à des préoccupations qui évoquent des histoires autour du sexe, de l'argent, de la violence. Alors là, il y a de quoi faire. Ça, c'est sûr que là, on est en plein dans la curiosité primaire. Alors la troisième conséquence grave de l'empêchement de penser concerne cette fois le langage. J'en ai dit déjà un mot en introduction, je ne vais pas insister pour faire des descriptions. Pour moi, là, malgré tout, savoirs fondamentaux, pour accéder aux savoirs fondamentaux, il faut être arrivé au seuil de l'argumentaire. Enchaîner deux arguments, prendre un exemple, questionner l'autre, s'appuyer sur le discours de l'autre pour contrer un argument ou l'enrichir, tant que ça, c'est pas possible, on ne peut pas maîtriser correctement les savoirs fondamentaux. Et pour moi, il est vraiment regrettable que dans le domaine de nos domaines pédagogiques, on ne prenne pas véritablement en compte ce handicap. Vous allez sans doute peut-être me dire que si, mais malgré tout, je pense qu'il devrait y avoir des réponses qui soient vraiment organisées autour de ce handicap fort que nous connaissons depuis longtemps. C'est pas moi qui découvre ça, vous savez, il y a déjà plus de 30 ans, Bentolila avait essayé de mesurer les connaissances langagières de ceux qui allaient au service militaire. Et bon, il avait évidemment trouvé des différences. Et ensuite, il avait essayé de corréler ça avec le parcours scolaire. Mais les courbes se superposent pratiquement entre la maîtrise du langage, le nombre de mots connus, la possibilité de s'exprimer et la réussite à l'école. Donc là, vous voyez qu'il y a c'est ancien. Et j'ai l'impression que depuis que je suis instituteur, tous les 5 ans à peu près, il y a un rapport de l'inspection générale qui nous dit, on ne fait pas assez parler dans les enfants dans les classes, il faudrait les faire plus parler. Et je crois que non seulement l'utilisation d'un langage qui ne repose pas sur l'activité réflexive, parce que c'est ça, ce langage des adolescents qui sont toujours dans l'immédiateté, ils ne font pas passer le langage par l'activité réflexive, ça donne un échange et une communication pauvre. Ça, c'est évident, c'est facile de le repérer. Mais de plus, et ça, peut-être que là, je vous dis quelque chose d'important, de plus, il ne joue pas son rôle pour stimuler et structurer la pensée. Ça, c'est là qu'il est le drame, c'est-à-dire que ça ne permet pas de construire et de fortifier la boucle réflexive, parce que ceux qui ne s'appuient pas sur le langage, quelque chose, ils n'ont pas le moteur pour faire ça. Et la boucle réflexive qui est sollicitée dans l'apprentissage. Quatrième conséquence, je vais un peu vite pour qu'on ait le temps quand même de débattre, parce que après, dans la deuxième partie, il faut que je vous dise quelles propositions on peut faire à ceux qui sont dans ce type de difficultés. Sinon, si on se contente de faire une description, ça n'ira pas. Alors, quatrième conséquence de l'empêchement de penser, alors là, c'est la mise en place de stratégies de contournement du temps de la réflexion qui vont finir par déterminer un fonctionnement intellectuel singulier. Vous voyez, ça va loin pour certains, puisque ça ne veut pas dire que certains sont pas intelligents, non, c'est pas ça. On peut être intelligent, mais avoir un fonctionnement intellectuel singulier. Donc ce fonctionnement intellectuel singulier, et souvent ça n'apparaît pas dans les tests, on va trouver trois grand type de fonctionnement que vous pouvez repérer dans les classes. Et le premier, c'est le conformisme de pensée. Le second, c'est l'association immédiate, le besoin d'association immédiate. Et le troisième, c'est le besoin de certitude. Si on n'affine pas, si on reste sur des lignes générales, ce sont les trois plus importants. Le conformisme de pensée, ça consiste avant tout à limiter l'investigation, à inhiber tout ce qui ressemble à la recherche, à ralentir le fonctionnement intellectuel en ne s'engageant pas dans l'inconnu, pas dans la recherche. Alors ce sont souvent des enfants qui aiment bien faire et refaire les mêmes choses, des exercices qui sont maîtrisés, des enfants qui ont besoin quelquefois de recopier les cours, refaire, recommencer, qui manifeste peu d'intérêt, peu de curiosité, qui aime bien appliquer des recettes, et évidemment qui sont soucieux de la forme. Des fois, ça va avec. Ils ne nous gênent pas beaucoup. Ce ne sont pas ceux qui nous gênent le plus dans nos écoles et les enseignants s'arrangent bien avec le conformisme de pensée, souvent. Hein. Et c'est ici qu'on va trouver des pseudo-débilités. Hein. C'est-à-dire que si on travaille dans l'enseignement spécialisé, on voit bien qu'il y a quelquefois des enfants pour lesquels ça va loin parce qu'on vient remettre en cause leur capacité, leur intelligence cette fois. Hein. Le deuxième mode de fonctionnement intellectuel qu'on peut repérer, c'est l'association immédiate. Hein, les champions de l'association immédiate, c'est un autre moyen de ne pas se poser en allant vite pour griller le temps de suspension qui va avec l'apprentissage. Hein, moi, je dis qu'il y a un temps de suspension, c'est la confrontation avec le doute, avec les contraintes. Et eux, ils le grillent. Ils grillent, ils ne voient plus ses effets négatifs parce qu'ils passent vite d'un exercice à l'autre, d'un sujet à l'autre. Ce sont des enfants qui savent aussi faire des digressions assez rapidement, qui parfois ont de l'humour, des fois qui développent une grande intelligence avec ce mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, dans les enfants hyper matures intellectuels, on va en retrouver, à mon avis, pas loin d'un tiers qui fonctionne comme ça. Hein, c'est-à-dire, c'est des apprentissages rapides avec le voir et l'entendre, rapide et quelquefois nombreux, rien qu'avec le voir, l'entendre, la mémoire. Et c'est une façon de ne pas se poser. Et là, ben, on a du mal à comprendre. Hein. Surtout, là, les enseignants, les parents voient bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Moi, il m'est même arrivé de rencontrer des grands non-lecteurs qui fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire des enfants qui... Le grand non-lecteur est celui qui n'arrive pas au son après 3 années d'apprentissage de la lecture. C'est extrêmement grave, bien entendu, puisque ceux-là n'arrivent pas à lire un mot. Ne parlons pas de mal lire une phrase. Ils n'arrivent pas à lire un mot encore. Et ben, j'en ai rencontré qui fonctionnaient sur ce mode-là. Hein, c'est-à-dire rester sur la forme des lettres, ne jamais aller vers le sens, parce qu'évidemment, il y avait de l'inquiétude entre les deux. Mais par contre, ça ne les empêche pas de développer une intelligence... à la Coluche ou à la Ruquier, c'est-à-dire démarrer à la sonorité d'un mot, à l'image que ça fait, et très vite, il partait là-dedans avec beaucoup de vivacité d'esprit et d'humour. Vous voyez, c'est donc. En fait, ces deux groupes, ils vont avoir tous les deux des difficultés avec l'apprentissage de la lecture. Hein, c'est évident. Les premiers, ils vont beaucoup souffrir de la méthode syllabique qui encourage leurs défauts, et les seconds vont souffrir de la méthode globale hein, qui encourage leurs défauts à eux, c'est-à-dire d'aller vite, de mettre en mémoire. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est pas la peine de se battre pour les méthodes de lecture. Hein, chacune a ses limites, et ça, vous voyez, quand on est régulièrement face à ceux qui ont des difficultés ou qui ont connu des difficultés avec l'apprentissage de la lecture, on voit bien que c'est la méthode, il faut pouvoir la faire varier, il faut pouvoir la faire bouger, il ne faut pas être accroché à comment. Mais ça, on a eu il y a 5 ans en arrière, ou entre 5-6 ans, on s'est un peu rebattu pour les méthodes de lecture, puis ça s'est calmé. Il y a des modes en pédagogie aussi, hein, c'est. Et puis, alors, il y a aussi, donc, troisième mode de fonctionnement intellectuel pour échapper aussi à ce temps de la réflexion, il y a le besoin de certitude. Alors là, vous allez aussi voir que cette fois, l'apprentissage ne peut se faire que dans la maîtrise et le contrôle. Hein? Le fonctionnement mental de ces enfants se rigidifie. Le fait de ne pas savoir devient pour eux tout de suite une remise en cause. Hein, dès qu'on les met à quelque chose, face à un exercice qu'ils ne savent pas faire, là, immédiatement, on les voit se cabrer, entrer dans l'opposition, la provocation. Ils sont mal à ce moment-là. Alors, chez les plus jeunes, on voit bien qu'il y a ce besoin de certitude et souvent accompagné par des idées d'omniscience ou de toute puissance. Hein, c'est d'ailleurs très étonnant de voir alors chez les enfants petits jusqu'à moins de 6 ans ça va, mais après à 8-10 ans ceux qui ont l'impression de savoir, alors qui visiblement ils ne savent pas, c'est assez étonnant. Hein. Alors chez les plus âgés, parce que là ça se repère vraiment beaucoup chez les plus âgés, le doute, quand on les confronte avec le doute, ça déclenche rapidement des idées de persécution et d'injustice. Hein, c'est eux qu'on va entendre dire que l'exercice est bidon, que ça sert à rien, que le prof explique mal. Et puis, ça, c'est associé bien souvent à un besoin de voir la pensée comme de la faiblesse, voire faisant courir des risques de féminisation. Pas pour rien non plus qu'on les entend dire que tel exercice c'est bon pour les bouffons, pour les gonzesses ou pour les pédés. Hein, c'est la perte de pouvoir, risque de se retrouver du côté des faibles en entrant dans la pensée. Là, ça va aussi s'accompagner. On le revoit plus chez les garçons, adolescents, qui sont très vite aussi sur le versant de la provocation et de la violence. Hein, ce sont eux qui vont vivre ça. Et là, bon, on voit bien comment ça va rendre difficile le travail pédagogique avec cela. Voilà, donc j'ai fini avec cette description un peu rapide.